Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
C'est l'histoire d'une famille française des beaux quartiers à Saint-Germain-des-Prés dans les années 70. Sur les photos de l'époque, il y a les pièces lumineuses d'un grand appartement, quatre enfants, des parents brillants et cultivés, des œuvres d'art un peu partout, quelques amis célèbres. Ça fait envie, ça ressemble à ce que l'on appelle une vie de privilégié. Sur les photos. En réalité, c'est une histoire tellement violente que tout le monde a essayé de l'oublier. Victime, témoin, coupable, chacun à sa manière a essayé de l'effacer, de fonctionner comme si rien ne s'était passé. C'est pour cela qu'il nous semble nécessaire de la faire entendre, parce qu'elle a longtemps été tue, parce que personne ne disait ce qui s'était passé et qu'aussi incroyable que cela puisse paraître, la vie a pu s'écouler comme ça, jour après jour, pendant des années. On pourrait dire du coup que c'est une histoire extraordinaire, presque surréaliste. Mais pas du tout, c'est une histoire assez courante en fait, et c'est une autre raison de l'écouter. Cela se passe dans des milliers d'autres familles, dans notre rue, dans notre immeuble peut-être. Et presque toujours, le silence ou l'amnésie engloutissent pendant longtemps la vérité. C'est une histoire qui peut choquer enfin. Et c'est pourquoi il faut éloigner maintenant les plus jeunes et les plus sensibles du poste de radio. Il faudra bien sûr leur en parler un jour, les informer, des liens qu'entretiennent souvent le silence et la violence. Mais aux plus jeunes, peut-être qu'on peut leur laisser encore un peu de temps. Ou en tout cas pour l'instant, trouver une manière de leur expliquer les choses autrement. C'est jusqu'à 14h, dans Les Pieds sur Terre, La Blessure, par Stéphanie Thomas.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je suis Mathilde Brasillier, donc journaliste, architecte et puis aujourd'hui écrivaine. Quand je suis née, mes parents étaient à Rome, puisque mon père a été pris de Rome en 57. Donc ils étaient à la Villa Médicis à Rome et ils avaient déjà trois enfants. Et moi, je suis née en 59. Donc je suis restée à la Villa Médicis jusqu'en 62. J'ai passé mes trois premières années à Rome et ensuite mes parents sont revenus à Paris dans leur appartement du 6e qui est juste dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, Odéon. Alors mes parents étaient catholiques, pratiquants, allaient fréquemment à l'église Saint-Germain-des-Prés et on était scolarisés à l'école paroissiale de Saint-Germain-des-Prés. Voilà. On est vraiment très heureux. Enfin, c'était un milieu où il y avait beaucoup d'enfants, d'artistes ou des personnes qui travaillaient dans le cinéma, dans le théâtre. Voilà. Mon père connaissait bien Malraux. Il était aussi très ami avec Balthus, le peintre, qui habitait juste en face de l'autre côté du boulevard Saint-Germain. Il connaissait bien aussi Gabriel Masneff, l'écrivain, oui. Et du coup, on voyait beaucoup de personnes politiques, enfin, lors des vernissages, et voilà. Mon père était impressionnant par sa culture, par son intelligence. On n'était pas étonnés d'apprendre que c'était un prix de Rome et qu'il a été félicité par le général de Gaulle, le pape. À l'époque, prix de Rome, c'était une reconnaissance extrême. En gros, ça voulait dire qu'on est le meilleur architecte de cette année-là. Ça ouvrait des portes partout. Il était extrêmement cultivé et il nous apprenait beaucoup de choses. Les balades dans Paris, il savait nous décrire un bâtiment de A à Z. On était beaucoup dans les musées. Il nous nourrissait de culture. Et bon, moi, je crois que c'est pas par hasard que c'est devenu un pédagogue reconnu au niveau de l'école des Beaux-Arts et très apprécié de ses élèves. C'est quelqu'un qui enseignait. Mais alors, avec ce côté je sais tout, il était assez étouffant aussi. Donc, fallait pas se tenir les coudes sur la table. On n'avait pas le droit d'intervenir quand on voulait. Il était assez strict avec des règles. Mais quelqu'un qui pouvait faire peur parce qu'il était
assez distant, assez froid. Bon, les personnes qui nous côtoyaient trouvaient ma mère extrêmement chaleureuse, adorable. C'était un peu le pilier de la famille. Elle qui était... Alors, elle était sculpteur, ma mère. Alors, elle, à l'inverse de mon père, c'était une femme très terrienne. Et entre eux, il y avait un peu une rivalité, parce que ma mère passait pour une bourgeoise riche, et elle était la fille d'un industriel qui avait une grosse industrie qui distribuait dans toute la France des chocolats, des pains d'épices. Et lui, c'était un aristocrate, et il y avait des gens brillants dans sa famille qui étaient connus, des peintres, des... Et il avait un peu un mépris. Donc il y a eu des tensions entre eux sur ce sujet. J'entends mon père dire à ma mère « t'es assise sur un tas d'or ». Et étant enfant, c'est pas que ça m'impressionnait, mais on vivait un peu dans un petit paradis, dans un hôtel particulier du 6e, qui était un bel appartement à l'époque. J'ai gardé les souvenirs d'une enfance heureuse. Et c'est après de nombreuses années que je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas toujours été si heureuse que ça, cette enfance. Jusqu'à où j'ai eu 40 ans, j'avais l'impression d'avoir vécu une enfance idyllique. Et j'avais que des images très positives, très appuyées sur l'image de ma mère, qui était quelqu'un de très solide. Mais j'ai toujours eu des questionnements par rapport au fait que j'avais beaucoup de difficultés à soutenir le regard de mon père. Et ça, ça a toujours été. Un regard qui me fait peur. Enfin, en grandissant, en ayant 25 ans, 30 ans, les déjeuners avec ma mère, je préférais que ça se passe à l'extérieur et qu'il soit pas là. Alors je voyais mon père de temps en temps. C'est pas qu'il était exclu, mais je disais c'est, je supporte pas de le voir. Et pourtant c'est quelqu'un que j'aime. Mais j'étais mal à l'aise. Et puis jusqu'à cet âge de 40 ans, il y avait des choses qui étaient occultées dans ma mémoire et qui ont refait surface. Suite à des entretiens avec Catherine Dolto, qui au départ devait s'occuper de mon petit garçon qui avait des troubles autistiques. Et puis finalement, elle a voulu faire un travail avec moi qui a fait remonter, émerger à la surface ces souvenirs qui étaient tellement traumatisants que j'étais tout était enfermée et ressortie de façon totalement intègre. Dans la même journée, et où il y avait des scènes de viol, des flashs qui correspondaient, alors là, avec une précision, je pouvais les dater, je pouvais les localiser. Il n'y avait pas de flou, c'était comme un film qui se déroulait. En fait, l'appartement, il est en U, enfin, il contourne une cour. Il y a une partie sur la rue. Et moi et mon petit frère, on était un peu comme les princes de la famille. On était vraiment ce qui pouvait générer des jalousies. On était vraiment les chouchous, les petits princes. Voilà. Donc, on avait ce qu'il y avait de mieux. Et donc, moi, j'ai eu la plus belle chambre, alors que ma sœur, qui avait 6 ans de plus, s'est retrouvée dans une chambre 2 fois plus petite que la mienne, et moi j'avais la chambre sur rue, mais qui était toute proche de celle de mes parents, et où j'étais isolée. Mes 4 frères et sœurs étaient dans l'autre partie de l'appartement. Et du coup, stratégiquement, mon père devait attendre que ma mère soit endormie, et il venait la nuit dans ma chambre, et... J'avais tellement peur que, en fait, je suis devenue insomniaque depuis que j'ai 7 ans. J'ai cette image, j'ai cette ombre, j'ai l'impression que quelqu'un va faire intrusion dans la pièce. J'ai jamais dormi sans médicaments. Ma maman, voyant que je passais 3 nuits blanches, elle appelait le généraliste la quatrième nuit et qui me faisait des injections de Valium. Du coup, je dormais, mais en fait, bon, ma mère s'inquiétait beaucoup des raisons à cette insomnie, mais sans vraiment, elle se disait, après tout, elle va bien, elle est première de la classe, elle est mignonne comme tout, bon. Je faisais bonne figure. J'avais des petits yeux fatigués parfois parce que j'avais ces problèmes de sommeil, mais sinon, je faisais la petite princesse à l'école. Nous faisions bonne figure, moi et mon frère. L'inceste, ça a commencé quand j'avais 5 ans. La plupart du temps, nous étions deux, moi et mon frère, le plus jeune. Mon père, d'une part, il nous faisait fabriquer des cabanes en carton pour nous isoler. Et puis, il nous disait, on va faire des jolies maisons avec des cartons, des couleurs. Et puis après, vous vous cachez dedans. Et puis, nous sodomiser. Et il avait en plus monté un stratagème, c'est qu'il avait dans cette agence d'architecture qui est rue Antoine Dubois, il avait fait un système de trappe électrique qui se refermait, qui mettait en route. Et quand on jouait dans cette cave en dessous, cette trappe était blindée. Et en fait, on pouvait crier, on pouvait faire tout. Personne n'aurait pu nous entendre. Il avait isolé complètement le sous-sol de son agence. Et on était dans un piège, en fait, on était piégés. Le fait d'être à deux nous rendait plus forts, paradoxalement. Mais en même temps, c'était insupportable de voir l'autre souffrir. Bon, c'était pas du tout des viols au quotidien, hein. C'était des épisodes... Il y avait des épisodes où on était en vacances au ski, il y avait des épisodes où c'était avec un ami à lui qui avait fait de la prison parce qu'il avait lui-même été jugé comme pédophile. C'est un ami de mon père qui était peintre et donc il avait été invité à passer quelques jours de vacances. Et un jour, il dit à ma mère, j'emmène les petits se promener. Et là, je vois le regard de ma mère qui était terrifiée. Presque pas eu le temps de dire non, pas eux. Et puis, bon, elle savait qu'il avait fait de la prison, qu'il avait eu un problème de pédophilie en Suisse et qu'il était quelqu'un de dangereux. Il y avait de quoi avoir peur. Donc, il y a eu différents épisodes... entre 5 et 10 ans. Et bon, ça s'est arrêté lorsque j'avais 10 ans. Il y a eu un épisode où on était à Saint-Gervais en vacances de ski. Nous étions deux, moi et mon frère. On était tous les deux dans cette chambre d'hôtel avec mon père. Bon, au départ, il nous avait proposé un chocolat chaud, mais on ne savait pas du tout qu'il y avait des chambres au-dessus. Et bon, ensuite, il nous bloque dans la chambre au-dessus. Et là, c'est mon frère qui dit « Viens vite, sinon on va mourir. » Et voilà. Et du coup, on s'échappe. Je sais pas, il avait oublié la clé sur la porte ou on s'échappe. Et on arrive à retrouver l'hôtel où était ma mère. Et, bon. Et donc, on revient de ses vacances de Noël à Paris. Et deux jours après, mon père a eu un problème de délire. Bouffée délirante. Et là, ma mère fait intervenir le médecin de famille qui dit tout de suite faut le faire interner, c'est très grave. Il a une délire paranoïaque, des troubles, il déraillait complètement. Donc là, il a été interné pendant 6 mois dans une clinique où à l'époque on faisait des lavages de cerveau, électrochocs, c'était des traitements dans les années 70 qui étaient. Et seulement ma mère avait le droit d'aller le voir. Et elle apportait des photos. Et elle disait, c'est curieux parce que les photos où vous êtes, toi et Fabien, il les déchire. Bon, moi, ça me faisait de la peine. Je disais, papa, qui déchire nos photos? tout de suite après ce dernier épisode de viol, j'ai bloqué pour, j'ai effacé, comme après un accident de voiture, on se rappelle rien de ce qui s'est... À 10 ans, j'étais en amnésie. Alors mon frère, je pense, avait tout en mémoire. Et mon frère, quand il a 13 ans, il parle de mourir. Un jour, ma mère m'appelle en disant écoute, il y a un problème, Fabien dit qu'il veut mourir. Et ma mère dit, écoute, je vais l'emmener voir un psychiatre. Et puis en fait, il n'y a jamais eu d'autres signes de la part de mon frère. Après, il allait bien, poursuivant ses études et quelqu'un de complètement normal. Mais quand il a eu 25 ans, quelques jours avant, je viens déjeuner pour le voir. Et là, à table, mon père lui lance une injonction en lui disant « Pourquoi tu parles jamais, toi ?» Et mon frère répond « Après ce que tu m'as fait, je n'ai plus rien à te dire. » Et on est pétrifié, mais en fait, on passe à autre chose. C'est tellement lourd, on se dit « Mais qu'est-ce qui... Bon. » Alors, mon père avait beaucoup de discussions autour de l'architecture. Et il avait été retenu pour faire le concours de Beaubourg. Il y avait 10 architectes qui avaient été sélectionnés, dont Renzo Piano. Et donc, quand le concours a été gagné, mon père a fait tout un pataquès en disant pourquoi ils n'ont pas pris un Français, prix de Rome, et qu'ils sont en plus allés chercher un étranger. Et mon frère adorait ce bâtiment, particulièrement. Donc, il allait souvent à Beaubourg. Et c'est pas par hasard s'il a choisi ce lieu pour se jeter dans le vide. Il est monté en haut de Beaubourg, il s'est jeté. C'est mon mari de l'époque qui l'apprend par un coup de fil de mon père qui dit y a des Arabes qui l'ont poussé à Beaubourg. Et là, mon mari dit on arrive. Et puis là, je trouve une atmosphère très curieuse. Parce que mes parents, je les trouve comme d'habitude, assez détendus. Ils avaient bien mangé, alors qu'ils étaient au commissariat depuis 6 heures du matin. Et puis, je dois avouer que ma mère ne traduisait pas de signes. Elle n'était pas effondrée. Enfin, c'était sidérant. Il n'y avait pas de chamboulement. Et puis, mon père dit c'est déjà bien de vivre 24 ans. Et alors, je vais dans la chambre de mon frère. Et puis je dis à mes parents, il a certainement laissé une lettre, quelque chose. Et puis dans la chambre, je vois rien d'apparent. J'ai tout de suite les yeux vers la poubelle et je vois du papier déchiré. Je dis, maman, tu peux aller chercher du scotch ? Là, il y a une lettre et puis il y a des brouillons. Donc je commence, je rescotche les morceaux. Il écrit... J'ai connu des moments de bonheur, mais je n'en aurai plus. Sachez accepter l'acte accompli avec sa signature. Voilà. Les gens commençant à défiler à la maison pour les condoléances. Je vois mes parents qui continuaient. Il y a des Arabes dans ce quartier qui l'ont poussé. J'ai dit, attendez, non. Ça, le mensonge, c'est pas possible. Fabien s'est suicidé, il y a une lettre. Mais ils ont maintenu, même dans le faire-part qui était dans le journal Le Monde, Le Figaro et d'autres journaux, il est mort accidentellement sur le parvis du musée Beaubourg. C'est un milieu où il y a des codes. L'événement était tragique, mais en fait, ça se dit pas dans ces familles. Et puis j'ai eu même maman qui me fait la réflexion, faut peut-être mieux pas le dire au prêtre, parce que sinon on va pas avoir d'enterrement à Saint-Germain. Il vaut mieux avoir une version, on l'a poussé, c'est pas de chance. Et puis, mon père, avec son côté antisémite, raciste, bon, il rajoute, ça pouvait être que des Arabes, c'est pas des Français qui allaient tuer un Français. Et puis, je me rends compte très vite que mon frère a pas de pierre tombale. Et là, ma mère me dit, bah écoute, il n'y a pas de tombe, parce que papa, il veut pas, donc je peux pas aller contre, donc il n'y a pas de pierre. Là, j'étais prise d'une colère et d'une tristesse. Je dis, même pas de pierre tombale. Il y avait un déni de son existence. À 40 ans, je fais cette thérapie avec Catherine Dolto. Et quand ces souvenirs réémergent, je vois plus mon père du jour au lendemain, bien évidemment. Enfin, je coupe complètement avec mon père. Mais je continue à voir ma mère. Et puis, elle me dit, mais si tu veux plus voir papa, est-ce que c'est pas pour un problème de pédophilie? Je lui dis, maman, si tu poses cette question, tu la connais la réponse. Donc ma mère connaissait les agissements de mon père. Bon, c'est vrai qu'elle a souvent évoqué qu'à la Villa Médicis, il se passait des choses qui étaient anormales. Elle-même, elle voyait des gamines qui venaient se confier à elle, des gamines de 13 ans, qui étaient violées. Enfin, c'est arrivé une ou deux fois, qui soi-disant servaient de modèles, mais c'était pas que des modèles. Et du coup, elle venait dans le pavillon où on habitait, et maman, qui était très chaleureuse, les consolait, mais elle savait qu'il y avait... Il y avait ce problème de pédophilie à la Villa Médicis. Tous ces gens-là font bonne figure. Hein. Mon père aussi était distingué, mais ambigu. Beaucoup de personnes voyaient une ambiguïté. Et puis un jour, mon fils, qui est autiste, me tend un DVD d'Almodovar qui s'appelle « Parle avec elle ». Les autistes ont beaucoup d'intuition et tout ce qu'il fait est signifiant. Et là, je regarde, je dis, Louis, tu veux que j'appelle ton grand-père? Je te promets, je vais l'appeler. Et là, j'appelle mon père. Et lors de cet échange téléphonique, il dit qu'il ne se supporte pas d'avoir fait autant de mal à autant de personnes, qu'il est responsable du suicide de mon frère, et comment est-ce qu'il a pu me faire autant de mal, et voilà. Il me demande pardon, j'accepte ce pardon, et je lui dis, écoute, puisqu'on peut se parler, c'est mieux de se voir, on va prendre un café, place des Vosges, puisque j'étais au téléphone, on n'a qu'à fixer le jour tout de suite, lundi, ça peut te... Et là, il me dit, non, on ne fixe pas de date. Et puis, il me dit, je suis très heureux de t'avoir entendu, c'est un... Voilà. Et puis, le lendemain, j'ai un coup de fil de maman qui me dit, papa est mort. J'arrive, effectivement, il avait... comme les personnes qui prennent du cyanure, où il y avait plein de blancheurs. Bon. Et je dis à maman, il a certainement pris quelque chose, mais si tu veux en être sûre, ça serait bien que tu fasses une autopsie. Et là, bon, je la vois, non, c'est pas la peine. Bon, elle s'occupe de l'enterrement le plus vite possible, et elle me dit, tu m'en veux pas si je te dis que c'est un soulagement. Enfin, il est mort. Ouais. En fait, ça a été une deuxième libération. Pour moi, ça a été vraiment... il n'était plus là. Et j'avais le fait de voir qu'il était mort, j'avais plus à avoir peur. Alors, j'avais des problèmes de spasmophilie, j'avais des problèmes avec le toucher, j'avais tout ça est parti. Du jour où il est mort, tout a disparu. Beaucoup de personnes ont tendance à juger de façon tranchée le fait que ma mère n'ait pas quitté mon père. Elle a vu concrètement des choses. Quand j'ai eu toute cette émergence de souvenirs, je me suis fâchée par téléphone. J'ai dit, maman, mais c'est horrible ce qu'on a vécu, tu te rends compte? Et puis, Il y a eu tout de suite des mots, des échanges avec elle qui ont dit « bah oui, j'ai pas su partir ». Mais j'ai pensé que je pouvais vous protéger en restant avec vous et que ça allait s'arrêter. Ce que je pense, c'est qu'elle a été la première victime de mon père. Ouais. C'est qu'elle était sous son emprise. Quand son mari lui dit « tu ne fais pas de pierre tombale pour Fabien, parce qu'il s'est suicidé, je t'interdis de mettre une pierre », et ben elle a peur de le contrarier, elle le fait pas. Elle était obéissante, elle avait peur de lui. Mais en fait, c'est pas un milieu où on divorce. À cette époque-là, dans ma classe en sixième, j'avais qu'une amie qui avait des parents divorcés. Et encore, c'était un cas parmi toutes les sixièmes du lycée Montaigne, donc ça se faisait pas. Comme si ce quartier était un tout, qu'il fallait pas le briser. Et si ma mère dénonçait mon père, elle allait aussi dénoncer ce pédophile qui avait fait de la prison en Suisse, Maznev, qui était très lié à lui, et qui était sur les plateaux télé, invité, adulé, et qu'en même temps, il faisait la sortie d'Henri IV, et personne ne venait l'embêter. Et puis, est-ce qu'on l'aurait cru? Si elle parlait, je ne sais pas à l'époque si on l'aurait cru. There's a rhythm and rush these days, where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams, in a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. The gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't leave. Engines won't turn and the train won't leave. I will stay with you tonight. Hold you close till the morning light. The morning watch sun. Just to stay alive. The way I feel is the way I ride. Racing like the thoughts of a man.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, un reportage de Stéphanie Thomas réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Mathilde Brasilier. L'attachée de production, c'est Mélissa Foust et François Bréus, notre stagiaire. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.